14h16, la caméra embarquée dans la voiture de Schumacher est braquée sur la Williams Renault d'Ayrton en Senna. Lorsque celle-ci, pour des raisons encore inconnues, quitte la piste à près de 260 km/h. L'impact contre le mur est significatif, le choc a été terrible. En fait, immédiatement, les docteurs pratiquent une intubation avec ventilation et une mini-trachéotomie. Intervention opérée à même la piste pendant plus d'un quart d'heure. Lorsqu'il arrive à l'hôpital de Bologne, les médecins constatent des fractures multiples à la base du crâne et des problèmes neurochirurgicaux. À 17h39, son état est jugé dramatique. Peu après 18h, son décès est annoncé officiellement.
Un élément de la suspension, je vous rappelle, se détache lors de l'impact et frappe Senna à la tête malgré son casque. Gravement blessé, il est transporté à l'hôpital de Bologne. Il est déclaré mort quelques heures plus tard à l'âge de 34 ans. Les GG, 32 ans plus tard, pourquoi Senna reste omniprésent? Envoyez vos messages sur WhatsApp. Je sais que c'est un moment qui nous a tous et toutes marqués. Tiens, on accueille Jean-Luc Roy, notre voix de la F1 qui nous rejoint. Salut Jean-Luc.
Oui, salut Georges et bonjour à tous.
Évidemment, on est toujours marqué par ça. Jean-Luc, tu seras au commentaire du Grand Prix de Miami, évidemment. Aujourd'hui, on en parlera tout à l'heure rapidement. Mais d'abord, tiens, petit tour de table. Pourquoi Senna reste omniprésent, Marc?
Parce que tout simplement, c'était un mythe déjà comme pilote. C'était le grand rival d'Alain Prost, mais ça, c'était pour le côté sportif. Mais il avait un côté mystique. Il était quelque part pour l'ensemble du public qui suivait la Formule 1, il était immortel sur la piste. Il ne pouvait rien lui arriver. Il était intouchable, inaccessible. Il était surhumain. Et ce 1er mai 1994, on a vu la mort d'un mythe en direct à la télévision, en mondiovision. Et c'est ce qui, je pense, a provoqué ce choc, parce qu'on est encore sous le choc. Là, vous voyez,
on a tous les images en tête.
On est 32 ans plus tard. Mmh. Et c'est comme si c'était arrivé hier matin. C'est un truc.
Tu me disais chaque 1er mai, j'y pense.
Chaque 1er mai, j'y pense. Et je me souviendrai jusqu'à mon dernier jour de où j'étais et ce que je faisais aussi, à ce moment-là. Et les jours qui ont suivi, les obsèques au Brésil, on était dans quelque chose de surnaturel.
David.
C'est un garçon qui avait tout pour lui. Il avait le talent, c'était un beau gosse, il avait un mental de dingue, et on rappelle que Marc l'a rappelé, le duel Prost-Senna, pour nous Français, c'était mythique. On était inscrit dans un espèce de feuilleton haletant entre ces deux-là, des courses qui s'enchaînaient les unes derrière les autres, il y en a un qui gagnait, l'autre gagnait, etc., etc., enfin... Et puis ce gars était, il avait du caractère aussi. Il s'emportait, il était, on sentait qu'il était perfectionniste, qui ne vivait que pour ça. Et puis d'un seul coup, la brutalité de ce mur physique, mais la brutalité de l'accident et de la mort. Moi, je m'en souviens. Je regardais le Grand Prix dans mon canapé. C'est le choc, quoi. Oh, l'histoire s'arrête là, net, brutalement, sans retour en arrière, sans rien, sans... Puis après, on apprend que... Jean-Luc, j'espère que tu vas me confirmer, mais j'avais cru comprendre que il avait tellement poussé loin la réduction du poids, travailler sur sa colonne direction, et apparemment, ce serait ça qui aurait cédé, qu'il a été victime, quelque part, peut-être de lui-même et de son jusqu'au boutisme pour performer le plus possible. Et il est coupé dans la fleur de l'âge, quoi. C'est incroyable. C'est voilà, c'était déjà un mythe, et malheureusement la mort a renforcé ce mythe-là et est toujours dans notre mémoire aujourd'hui. Quoi.
Jean-Luc, avant de t'écouter, le tour de table de ceux qui ne sont pas au quotidien dans les sports auto, Chris, toi pour le coup, pareil, il y a 32 ans, tu te souviens où t'étais?
Bien sûr,
à mort de Senna.
Je me rappelle, je regardais le Grand Prix à la maison et j'étais en état
de sidération.
Et j'étais journaliste à l'époque dans une autre radio, et mon rédacteur en chef m'avait envoyé à Roissy, parce que l'avion était parti d'Italie, faisait escale à Paris avant de partir à Sao Paulo, où le peuple brésilien l'attendait. Ça avait été c'était les obsèques d'un chef d'État. Tout le Brésil était dans la rue. Il y a eu cette longue procession avec des centaines de milliers de supporters qui ont accompagné le cercueil cercueil de Senna jusqu'au cimetière.
Et ça dépassait le Brésil, ce que tu dis, j'étais à Roissy et tout
C'est le monde entier. Je pense que ça a été un choc mondial. Voir, comme le disait tout à l'heure Marc, la mort en direct d'un mythe, d'un champion comme ça. En plus, il s'est passé tellement de choses autour de ce Grand Prix. Le décès la veille de Ratzenberger, le petit message envoyé par Senna à son ennemi toujours, diffusé sur TF1 quelques secondes avant le départ du Grand Prix. Mon ami, tu me manques et tout ça. Waouh, chaque fois qu'on y pense, ça file la chair de poule et on a tous une petite larme. Le film qui a été fait derrière avec cette musique lancinante. Moi, chaque fois que je vois ce film, que j'entends la chanson, ça me file les larmes aux yeux, quoi. Donc, franchement.
Il y a une construction du mythe aussi, c'est vrai, derrière, de par les films et tout ça. Moi, je me posais la question avant, est-ce qu'on en fait pas un peu trop avec la légende de Senna? Et en fait, finalement, je pense que non.
Non, je pense que c'est.
Non, mais pour les plus jeunes qui l'ont jamais vu, par exemple.
Ton fils s'appelle Ayrton.
Moi, je me souviens.
Tout est vrai.
Début mai, au tennis, les matchs par équipe, les interclubs. Moi, j'étais à Saint-Étienne, dans la banlieue de Saint-Étienne, à Saint-Chamond, et avec mon père et avec les membres de l'équipe, on rentrait dans la voiture du match par équipe. C'est comme ça qu'on a appris l'accident de Senna. Donc, je me souviens déjà qu'on pouvait pas regarder le Grand Prix parce qu'on était sur le terrain, mais dans la voiture, on apprend l'accident de Senna. Et quand on arrive à la maison, je m'en souviens comme c'était hier, c'est le début de Stade 2, Patrick Chêne au commentaire, il y a le générique de début d'émission, et il coupe le générique, parce que on l'a dit vers 18h, la mort, il coupe le générique, parce qu'il annonce la mort d'Ayrton Senna en direct. Et donc là, mon père, qui était un fan absolu d'Ayrton Senna, qui me l'a transmise, je suis à côté de lui, et oui, on se souvient. Et cet été, l'été dernier, pour la première fois de ma vie, je suis allé au Brésil et j'ai discuté avec des Brésiliens. Et quand ils ont su que j'avais appelé, qu'il y avait mon fils, il avait le maillot du Brésil avec Ayrton, et on dit, vous voyez, c'est la grande différence entre Ayrton Senna et l'impro. Je suis bon. Il me dit oui. Toi, t'es appelé ton fils Ayrton. Il n'y aura aucun Brésilien qui appellera son fils à l'impro.
Véridique, on m'a dit ça comme ça sur la plage.
Et oui, non, je pense qu'il avait tout. Jean-Luc va mieux en parler, mais il est que trois fois champion du monde alors que son talent méritait mieux. Je pense que ça, Williams, à la fin, il n'arrivait pas à la dompter et il a cherché toutes les solutions et malheureusement, il est mort dedans. Et qu'il avait quelque chose en plus. Le pilotage, Jean-Luc va en parler, cette finesse, le record de victoire à Monaco, donc forcément ça prouve la qualité du pilote. Et puis là, il a quelque chose qui ne s'explique pas, c'est le charisme, l'aura.
Tiens, plein de messages sur WhatsApp au 06 12 424 424. Seb qui me dit, j'avais 20 ans, je sais exactement où j'étais, c'est incroyable la puissance qu'avait ce pilote pour moi. C'était un des plus grands sportifs de tous les temps. Il y a plein de messages comme ça de gens qui se rappellent où ils étaient.
Et cette bagarre qui a duré des années, ils se sont rendus coup pour coup, ils se sont fait tous les coups les plus pendables de l'histoire, les deux. Et puis Senna qui jouait la victime de Balestre et tout ça. Enfin, il y a tout est là, tout est réuni pour en faire un mythe.
Jean-Luc, on revoit de la F1, nous écoute depuis tout à l'heure. Je pense que c'était important d'avoir ce petit tour des témoignages et d'avoir aussi les auditeurs aussi pour comprendre ce que ça veut dire Senna au-delà de ceux qui suivent le sport auto au quotidien. Jean-Luc, la question qu'on se pose ce matin, c'est pourquoi est-ce qu'il est toujours omniprésent, selon toi ?
Oui, écoute, moi je suis comme vous, j'ai écouté tout ce que vous avez dit, évidemment, je souscris absolument, et tu vois, j'en parle encore moi aussi avec énormément d'émotions réelles pour plusieurs raisons, puisque moi j'ai eu la chance évidemment de le côtoyer. Je vais pas du tout dire comme beaucoup de gens, après c'est toujours trop facile, c'était un ami, je le connaissais bien, mais j'ai eu la chance de l'interviewer beaucoup de fois, parce qu'à l'époque on pouvait, face to face comme on dit, c'est-à-dire tous les deux, peut-être une vingtaine de fois, et j'ai vécu un certain nombre de choses avec lui, et notamment pendant cette saison 86. Je vais parler de celle-là parce que c'est la première saison que j'ai intégralement couvert pour une chaîne de télévision que Christophe connaît bien et qui a disparu malheureusement maintenant. Et j'étais présent sur tous les circuits, et donc je me rappelle particulièrement de la pole position qu'il a décrochée au Portugal, le circuit qui se trouve juste à côté de Lisbonne. Exactement, Estoril. Et donc c'était, on s'attendait à ce que soit la 14e pole de sa carrière. Il en avait déjà signé 7 lors de la saison précédente à son arrivée chez Lotus. Et bref, avec mon caméraman à l'époque aussi, on avait le droit de travailler, c'est-à-dire qu'on pouvait se balader dans les stands quand on était accrédité et se placer où on voulait. Et comme il était effectivement en fin de saison, c'était l'antépénultième Grand Prix, il en restait deux après le Mexique et l'Australie. Et donc je me doutais qu'il allait peut-être décrocher la pôle, donc j'étais dans son stand avec mon caméraman. Et effectivement, on entend, à l'époque, il n'y avait pas non plus des écrans partout, mais on entend avec le commentateur et on voit les écrans, on voit qu'il décroche la pôle. Et donc, j'avais Gérard Ducarouche, qui était son ingénieur français à mes côtés, ingénieur mythique, s'il en est aussi, de l'équipe Lotus. Et donc, Ayrton termine son tour et vient s'arrêter vraiment à mes pieds, devant. Donc, il se dresse dans la monoplace, il met les bras en l'air comme ça, il avait encore le casque, évidemment, et tout. Ducarouche est à côté, les mécanos, etc. Et puis, il enlève son casque, et puis, je le connaissais, bien sûr, puisqu'encore une fois, je l'avais déjà interviewé. Je lui fais signe avec le micro, est-ce que tu veux parler? Il me dit, ouais. Donc, il enlève le casque, il enlève la cagoule, et là, je lui pose la première question bateau, comme on fait souvent dans ces cas-là. Alors, Ayrton, cette pôle, comment ça s'est passé? Est-ce que tu peux me la décrire? Et là, comme il avait Ducarouche juste à côté de moi, il est parti comme dans un débriefing technique, et encore une fois, ça me met les poils à chaque fois. Avec les yeux qui partent dans le vide, et il me décrit son tour, mais avec une minutie. À l'époque, il n'y avait évidemment pas la même manière de capter ce qui se passait, hein, au niveau des ingénieurs. On devait se fier, et c'était un des talents des pilotes que de décrire ce qu'ils ressentaient à bord. Et il me décrit la sortie. Alors là, je peux vous la faire parce que ça a duré 8 minutes 30, pour être précis. 8 minutes 30, je peux vous la raconter. Et en fait, aller monter un truc comme ça. Moi, j'étais absolument sidéré, parce qu'en fait, il parlait à son
30 secondes, Coco.
Il parlait à son ingénieur à côté. Non, mais c'est, je vous jure, c'est un des grands moments de ma carrière.
Mais ça montre que c'était un passionné. C'est-à-dire qu'en gros, il vivait jusqu'au fond de sa chair un tour de piste.
Mais complètement,
par exemple.
Complètement. Et comme il était en train de débriefer,
il
débriefait pour son ingénieur. Donc, il me donnait le régime, où il passait, où il mettait le pneu. Il avait le temps de jeter un coup d'œil au pneu. Bon, alors, il y a ça. Et puis, il y a évidemment le fait que c'était un personnage qui dépassait son sport. Parce qu'il était fragile également. Il avait eu des problèmes avec la fédération. On s'en rappelle, à un moment, il était en conflit avec Jean-Marie Balestre. Il avait failli même ne pas participer à un championnat. Vous vous en rappelez, on voulait le priver de sa super licence. Mmh. Il y a eu toute une dramaturgie. Il avait également eu la faiblesse de confesser que, à Monaco, vous vous souvenez aussi, à un moment, il signe la pole avec la McLaren et il met une seconde 8 à Alain Prost. Vous vous rendez compte? Avec la même voiture. C'est absolument incroyable. C'est magique, c'est le cas de le dire.
Mais alors,
c'était son surnom.
S'il est omniprésent, les amis, est-ce que c'est pas parce que personne n'arrivait à sa cheville en termes d'image de ce qu'il représente? Alors il y a peut-être effectivement le côté dramatique fait qu'il est omniprésent. Parce que Hamilton et Schumacher ont plus gagné que lui, par exemple. Mais on a l'impression qu'on continue de parler plus de Senna.
Parce qu'il a été fauché, comme tu l'as dit, comme vous l'avez dit, en pleine trajectoire, et que tout le monde se rappelle exactement de ce qu'il faisait, comment et pourquoi. Et puis il paraissait intouchable, comme il était croyant, il était religieux, tout le monde le sait. Il faisait référence à ça. Certains n'hésitaient pas à se payer sa tête, d'ailleurs, en disant oui, il est allumé. Enfin, ouais. il pense qu'il est intouchable, etc. Et c'était pas du tout ça. D'ailleurs, vous le savez, après l'accident que vous évoquiez aussi de Roland Ratzenberger la veille, en qualif, où là, c'était le seul à s'être rendu sur place. Donc, parce que effectivement, il avait un souci de la sécurité qui était extrêmement développé. Il y avait eu également des accidents à RRS de la Frontera. Je me rappelle l'accident de Martin Donnelly qui était affreux, puisque c'est l'accident qu'on revoit aussi souvent où le pilote avait été arraché de sa monoplace. Il était broyé, les jambes brisées au milieu de la piste. Eh bien, Ayrton était parti sur place, lui, le seul. Il avait voulu comprendre ce qui s'était passé. Et juste après ça, il revient au stand. On redonne les qualifs et il signe une pole absolument sidérante. Il était au-delà de tout. Il avait une force mentale absolument incroyable.
Et puis Jean-Luc, à la différence de tous les pilotes actuels, il n'était pas lisse. Senna, il disait ce qu'il pensait. Senna, il faisait des choses qui aujourd'hui vaudraient la prison à d'autres pilotes.
Mais bien sûr.
Il n'hésitait pas. Et ça aussi, il fait partie de sa légende, je pense.
Mais il osait parler. Et c'est pour ça que c'est toujours très difficile de parler de filiation. Mais moi, j'adore quelqu'un comme Max Verstappen. Pourquoi? C'est le seul à l'ouvrir. C'est le seul à l'ouvrir aujourd'hui.
Le seul aussi.
Les autres, ils sont bien pensants. Ils sont bien lisses. Ils sont bien d'accord avec tout. Sauf quand ça va moins bien. Alors là, vous le voyez, le règlement, on va pas embrayer là-dessus. C'est tellement misérable à côté de.
Non, n'embraye pas là-dessus.
À côté de ce qu'on vient de dire, en plus. C'est vraiment pas du niveau. Mais je veux dire, voyez où ça volait un petit peu à l'époque.
C'était omniprésent, évidemment, encore. Il y a plein de messages sur WhatsApp. Tout le monde a encore été marqué et vit dans la mémoire de Senna, évidemment.